Ce fut Charles de Valois qui conduisit la fiancée à l'hôtel. Quant à Louis X, il eut à marcher seul. Aucune femme de la famille n'était auprès de lui pour figurer l'accompagnement maternel. Sa grand-tante Agnès de France, fille de Saint-Louis et duchesse douairière de Bourgogne, avait refusé de venir, et l'on comprenait assez pourquoi. Elle était la mère de Marguerite. La comtesse Mao avait prétexté un empêchement de dernière heure causé par l'agitation en Artois. Elle rejoindrait Reims directement pour le sacre, où ses fonctions de père lui faisaient obligation de paraître. Les comtesses de Valois et d'Évreux, qui, elles, étaient attendues, n'arrivèrent pas. On apprendrait qu'une erreur d'itinéraire les avait déroutées vers une chapelle Saint-Lié, distante d'une dizaine de lieues, et située dans les parages de Reims. Monseigneur Jean d'Aussois, mitre en tête, officiait. Tout le temps que dura la messe, Clémence se reprocha de ne pas parvenir à se recueillir autant qu'elle l'eût souhaité. Elle s'efforçait d'élever sa pensée vers le ciel, suppliant Dieu de lui accorder en toutes les heures de la vie les vertus d'épouse, les qualités de souveraine et les bénédictions de la maternité. Mais ses yeux, malgré elle, s'abaissaient sur l'homme qu'elle entendait respirer à son côté, dont elle connaissait à peine les traits et dont, le soir même, elle allait partager le lit. Il avait, chaque fois qu'il s'agenouillait, une toux brève qui semblait un tic. La ride profonde qui cernait son menton trop court surprenait chez un être encore si jeune. La bouche était mince, abaissée au coin, les cheveux longs et plats d'une couleur imprécise. Et lorsque cet homme se tournait vers elle, elle se sentait gênée par le regard de ses gros yeux pâles. Elle s'étonnait de ne pas retrouver l'état de bonheur sans mesure et sans mélange qu'il habitait au départ de Naples. « Mon Dieu, empêchez-moi d'être ingrate aux bienfaits dont vous me chargez. » Mais l'on ne commande pas en tout instant à son esprit. Et Clémence se surprit à penser que si on lui avait donné à choisir entre les trois princes de France, elle eût préféré le comte de Poitiers. Un grand effroi la saisit, et elle faillit s'écrier « Non, je ne veux pas, je ne suis pas digne ». À ce moment, elle s'entendit répondre « Oui », d'une voix qui ne lui parut pas la sienne, à l'évêque qui lui demandait si elle voulait prendre Louis, roi de France et de Navarre, pour époux. Le premier coup de tonnerre de l'orage prévu éclata, comme on passait au doigt de Clémence un anneau trop large, les assistants s'entre-regardèrent et plus d'un se signa. Quand le cortège sortit, les paysans attendaient groupés devant l'église en chemise de toile et les jambes entourées de chiffons. Clémence murmura « Ne va-t-on pas leur faire l'aumône ?» Elle avait pensé tout haut et l'on remarqua que sa première parole de reine avait été une parole de bonté. Pour lui complaire, Louis X ordonna à son chambellan de lancer quelques poignées de monnaie. Les paysans aussitôt se jetèrent au sol, et le spectacle offert à la nouvelle mariée fut celui d'une bataille sauvage sur les fleurs de la jonchée. On entendait des déchirures d'étoffes, des grognements sourds, comme en poussent les truies et des chocs de crâne. Les barons s'amusaient fort à contempler cette mêlée. L'un des vilains, plus large et plus lourd que les autres, écrasait de son pied les mains qui avaient attrapé une piécette et les forçait à s'ouvrir. « Voilà un goujat qui me paraît savoir y faire !» dit Robert d'Artois en riant. « À qui est-il? Je l'achète volontiers !» Et Clémence vit avec des plaisirs que Louis, lui aussi, riait. « Ce n'est pas ainsi qu'on donne, » pensa-t-elle. « Je lui apprendrai. » La pluie se mit à tomber. Les tables avaient été dressées dans la plus grande salle du château. Le repas dura 5 heures. « Et voilà, je suis reine de France, » se disait Clémence. Elle ne s'habituait pas à cette idée. Elle ne s'habituait d'ailleurs à rien, la gloutonnerie de ces seigneurs français la stupéfiait. À mesure que circulait le vin, le ton des voix montait. Seule femme à ce banquet d'hommes et de guerre, Clémence voyait tous les regards converger sur elle et devinait qu'au bout de la salle, les propos prenaient un tour assez gras. De temps à autre, l'un des convives s'absentait. Mathieu de Tri, le grand chambellan, cria « Le roi, notre sire, défend qu'on pisse dans l'escalier par lequel il passera !» Comme on était au 4e service de 6 plats chacun, dont un cochon entier présenté sur sa broche et un paon avec sa roue reconstituée autour du croupion, 2 écuyers s'avancèrent portant un pâté monumental qu'ils déposèrent devant le couple royal. On fendit la croûte et un renard vivant surgit du pâté, aux exclamations de l'assistance. Faute d'avoir pu préparer les pièces montées et des châteaux en sucrerie qui eussent réclamé plusieurs jours de fabrication, les cuisiniers s'étaient distingués de cette manière. Le renard affolé avait sauté dans la salle où il tournoyait, la queue rousse étouffue au ras des dalles et ses beaux yeux brillants un peu laiteux, tout apeurés. « Au goupil ! Au goupil !» hurlèrent les seigneurs en bondissant de leur siège. Une chasse s'improvisa autour des tables. Ce fut Robert d'Artois qui attrapa l'animal. On vit le géant plonger vers le sol et se relever, tenant à bout de bras le renard qui couinait, découvrant des crocs minces sous ses babines noires. Puis Robert referma lentement les doigts, les vertèbres craquèrent, les yeux du renard devinrent vitreux, et Robert étendit l'animal mort sur la table, devant la nouvelle reine, comme un hommage. Clémence, qui maintenait du pouce son anneau trop grand, demanda si c'était la coutume en France que les femmes de la parenté n'assistassent point au mariage. Elle reçut de Louis quelques explications embarrassées. « Mais de toute façon, ma sœur, vous n'auriez pas eu l'occasion de voir mon épouse, » dit le comte de Poitiers. « Et pourquoi donc, mon frère ?» demanda Clémence, qui éprouvait à la fois de l'intérêt à tout ce qu'il disait et de la gêne à lui répondre. « Parce qu'elle est encore enfermée au château de Dourdan, » dit Philippe de Poitiers. Puis, se tournant vers le roi, « Sire, mon frère, en ce jour de bonheur pour vous, je vous requiers de lever la peine qui fut infligée à Jeanne, mon épouse. Ses erreurs n'étaient point crimes, et elle s'en est repentie. » Le hutin pris de court ne savait que décider. Devait-il, devant Clémence, faire montre de mansuétude ou au contraire de fermeté, deux qualités également royales? Il chercha des yeux pour lui demander conseil Charles de Valois, mais celui-ci était allé prendre l'air. Et Robert d'Artois, à l'autre bout de la salle, enseignait à son cousin Philippe de Valois la manière de saisir un renard sans se faire mordre.